Alain de Gand, la drôlatique histoire du roi Inuit, allant visiter ses terres. Jadis, il y a de cela belle lurette, un grand roi Inuit, de bonne grâce obéissant aux tortueuses lois qui, par l'effet conjugué d'alliances subtiles entre familles bien-nées et de vénales madigances de notaires, régissent les destinées des têtes couronnées, d'un vaste domaine oublié, perdu aux confins d'une ancienne province, hérita. Les humbles fonctionnaires, chaque soir, adressent à l'État une laïque prière, afin qu'en ce désert, on ne les mute pas, tant prospèrent ici-bas la ronce et les calvaires. Hors de toute sa vie, cet esquimau de prince ne s'était guère éloigné de son igloo de maison, que pour chasser le phoque et le petit ourson. Ignorant tout du cycle des saisons qui, en nos lieux tempérés, règle les affaires, c'est au milieu de notre rude hiver qu'il fit affréter attelage, afin de prendre possession de son magnifique héritage. Le voyage ne manqua pas d'incidents. Le chemin était si long depuis le pôle. En montant en voiture, il se démit l'épaule. En mordant sur un clou, il se cassa les dents. Sur les flots agités de la mer Baltique, son navire heurta un cargo de barrique. À Copenhague, dit-on, en plein cœur de la nuit, il fut courtisé sans façon par une sirène en folie. Afin de ne pas lasser l'attention du lecteur, je passe des épisodes, et des meilleurs. À l'entrée de son domaine, il arriva enfin, tout fourbu, content d'être vivant, mais contre les dieux, en rage, et en bien piteux équipage, jugez-en plutôt. Son cocher ressemblait à s'y méprendre à un bandit de grand chemin qu'on aurait poursuivi pour le pendre. Ses valets, deux nigauds, qu'on aurait cru rentrer de stage tout de go du royaume de Naples et des deux Siciles, où foin d'omerta chacun sait comme moi qu'un peuple indocile règle à coups de couteau, si ce n'est de fusil, de futiles querelles de voisinage, ces valets, vous dis-je, semblaient deux loups malingres en quête d'un plumage. Ces chevaux, épuisés, avaient tout de Rocinante et plus rien de fringant d'estrié. Ses habits étaient défaits, tout crottés, dépareillés, dépenaillés. Lui était amaigri et débraillé, sa mine était grise et son teint délavé. Son regard, éteint, traînait à la dérive et son esprit, en rade, lui donnait l'air hagard d'un voyageur perdu sur le quai d'une gare. Après s'être escrimé un quart d'heure durant en vain rond de jambes, ridicule courbette et vil salamalec, devant notre roi sans divertissement qui ne faisait que bâiller en les regardant, deux obséquieux domestiques s'avisèrent soudain de l'urgente nécessité d'ouvrir à deux battants la grille en fer forgé qui solennellement dressait sa rouille au milieu des orties, des chardons, du chien-dent et des genêts à fumer les andouilles. Suant, soufflant, sifflant, retenant et poussant, vaille que vaille, à hu et à dia, tirant au nez des chevaux impatients, nos deux fourbes laquais parvinrent non sans mal à forcer le loquet qui tenait bien fermé le portail. Quand il s'ouvrit, un cri sinistre retentit et par toute la campagne se répandit. On eût dit le contrut d'une diva d'opéra ou le râle du boxeur frappé par l'uppercute. Le royal convoi, délivré, s'ébranla. Pénétrant plus avant dans son domaine, le roi fut pris d'un vrai ravissement. Car malgré le froid saisissant qui lui rappelait vaguement le cœur de l'été polaire, il put admirer tout un camailleux de vers qui se répandait par la nature entière. La mousse et les lichens recouvraient chaque branche de leur perfide matière. Le lierre grimpant escaladait les troncs et en vampirisait la sève dormante, pour le plus grand plaisir des yeux. Des lianes étouffantes étranglaient de leurs nœuds les pousses les plus récentes. La vermine habitait les fentes et les souches, et tous les parasites y avaient fait leur couche, se sentant bénis des dieux. Les arbres portaient à bout de bras d'énormes boules, d'un vert luisant, agrémentées de perles de nacre, sous lesquelles des couples de jeunes gens à bouche que veux-tu s'embrassaient goulûment, tandis que des prêtres barbus, armés d'une serpette, faisaient de ce trésor de fameuses emplettes. Absolument époustouflé, émerveillé et subjugué, le roi tint à féliciter le jardinier qui, par son grand art, avait si bien conçu et entretenu ce foisonnant et vivant bazar. On envoya chercher l'artiste. Ce n'est qu'après avoir fouillé 20 ateliers, 5 serres et 100 remises qu'on dénicha cet effronté, batifolant en simple chemise dans une grange à foin, où, foin du qu'en dira-t-on, sans vergogne, il lutinait les jupons d'une Margot, d'une Suzon, dont les chevilles étaient exquises. Sans ménagement, il fut extrait de ses joyeux ébats, et manu militari, jusqu'à sa majesté, fut conduit. D'un violent coup de pied, judicieusement placé, devant le roi, on l'invita fermement à s'incliner. Face contre terre, le soulier d'un laquais coincé entre les deux épaules, le drôle fut anobli et élevé au rang de grand maître de la jarretière et autres fariboles, ce qui, entre nous soit dit, lui fit une belle guibole. Le soulier du laquais se faisant plus pressant, le manant remercia le roi par d'inaudibles paroles. La boue du chemin obstruait son gosier. Et sans plus tarder, le royal convoi de nouveau s'ébranla. Plus on s'approchait de la cour d'honneur, plus les arbres perdaient de leur foisonnante vigueur. Bientôt, on ne vit plus la moindre tache de verdure, et l'entière nature avait partout perdu sa luxuriante parure. Amputée, rabougrie, squelettique, allées par terres et portiques étaient affligées de formes géométriques. Lignes droites, sphères et fuseaux, tout semblait tracé et taillé au cordeau. Plus de fantaisie pour rêver à loisir, plus de coussinet où poser le regard. La sévérité et ses grains sans ciseaux, associés à la mort et son austère faux, régnaient ici en maître, et vous glaçaient les os. Offusqué qu'on l'eût mené, au cœur de cette désolation qui plongeait l'âme humaine en un cafard profond et vous mettait les nerfs à vif, d'un geste sec et peu amène, sa majesté ordonna de ses chevaux l'arrêt et demanda qu'on lui amène sur le champ, mort ou vif, l'indigne énergumène, le fautif, coupable d'avoir estropié ses massifs. Inutile cette fois d'aller en bande par tout le domaine, quérir sous les chalis derrière les fagots ou dans des coins bizarres, le jardinier maudit qu'un funeste destin, qu'un malheureux hasard avait placé en travers du chemin d'un monarque venu du diable Vauvert piétiner ses plates-bandes. Il était planté là, à deux pas du carrosse, comme un fiancé falot au matin de ses noces. Car pris d'une frénésie quasi hystérique, à l'annonce de cette royale visite, il avait intrigué et s'était ingénié par cent ruses diverses, stratagèmes pervers, à se faire inviter, afin de s'approcher de ce prince exotique et vanter ses mérites dans l'espoir chimérique d'obtenir de sa très gracieuse majesté une charge, un diocèse, un domaine, un titre. Sa révérence exécutée, et par cette fois renouvelé, il restait humblement prosterné, chapeau bas, genoux pliés, l'air timide, mains croisées, tremblant comme feuille de peuplier sous la bourrasque de septembre. Puis il tint en rougissant cet émouvant discours au roi. « J'attire, bredouilla-t-il, respectueusement l'attention de votre majesté, sur l'envergure des travaux que quotidiennement entreprennent vos gens, afin que les rigueurs de nos frimas n'affectent par trop l'agencement ni l'harmonie qui préside depuis des siècles à l'excellente renommée ainsi qu'à la préservation de votre royal domaine, et ce, grâce à la pointilleuse attention que lui a toujours portée la lignée de vos illustres ancêtres et aux soins scrupuleux prodigués par leurs fidèles sujets. Aussi, est-ce avec fierté que je présente à votre majesté les fruits de notre soumission d'homme-lige, avec l'espoir qu'ils sauront à votre grâce complaire. Le roi se frotta d'abord les yeux, car il eut peine à croire ce qu'il venait de reluquer. Puis il introduisit chacun de ses auriculaires dans chacun de ses conduits auditifs, qu'avec vigueur il ramonna, car il eut peine à croire ce qu'il venait d'esgourder. Remarque du narrateur. Il exécuta cette basse besogne lui-même, et sans le secours d'une main experte, contrairement à l'accoutumée, et vu l'urgence, ne trouvant pas de chambrière à portée de sceptre pour la faire exécuter à sa place, dans cet environnement hostile et retiré de tout. À la guerre comme à la guerre, fut sa pensée profonde du jour que s'empressa de noter son tabellion. Ces deux exercices accomplis, il se persuada qu'il n'avait pas rêvé. On venait de se moquer de sa royale personne, et ce, de façon éhontée. Nous étions à n'en point douter devant un crime de lèse-majesté. Il fallait, sans coup férir, sévir, sous peine de perdre la face. Il fallait mettre fin à cette farce qui avait assez duré. Un tribunal fut illico constitué. Le roi y tiendrait tous les rôles, à l'exception notoire de celui de prévenu. Il déclara ouverte la séance en procédure de délit flagrant. Le procureur roi prononça le réquisitoire. De bonne foi, ne trouvant aucune circonstance atténuante, il demanda l'application de la peine capitale. L'avocat roi dut s'absenter pour une affaire urgente, pile au moment de sa plaidoirie. Les jurés ne reçurent leur convocation qu'à la fin de la semaine pascale, soit 3 mois francs après le jugement, ce en raison des nombreuses escales que s'octroya la malle-poste pour accomplir sa mission, selon l'officielle version. Le juge-roi fut contraint, on le comprend, de faire, séance tenante, procéder à l'exécution. Par son bourreau Scipion, dépêché tout exprès de son septentrion, au jardinier infâme, il fit trancher la tête. Schlack ! Sans plus de fioriture, le chou du jardinier s'en vint choir dans la sûre. De cette affligeante mésaventure, retenons bien ces deux leçons. La première, que depuis l'enfance nous savons, est que l'habit point ne fait le moine, pas plus que la ronde le printemps, et que jamais nous ne devons juger sur la mine ni les arbres, ni les gens, ni les objets, hormis peut-être les crayons, si chatoyants soient-ils dans les vitrines. La seconde nous exhorte à ne point trop flatter les puissants de ce monde, ni à leur obéir plus qu'il n'est de raison. Ils sont si impatients, capricieux, versatiles, ils vous feraient, sans autre forme de procès, devenir chèvre, tourner en bourrique, perdre le nord, qui sait, voire même perdre la vie. Passez inaperçus, faites-vous oublier, car, ne vous connaissant ni d'Ève ni d'Adam, ces très grands personnages, du haut de leur perchoir, ne se donneront pas même la peine de vous voir. Et, de votre jeunesse jusqu'à votre grand âge, ils vous ficheront, quel régal, une paix on ne peut plus royale.